Bonjour U. Alors aujourd'hui, on explore une source assez pratique, un article du blog Action Succès. Ça s'appelle 10 astuces simples pour économiser de l'argent chaque mois. C'est signé Nestor. L'objectif, c'est de regarder ensemble ces astuces. Elles visent surtout les débutants ou ceux qui veulent, disons, reprendre un peu le contrôle de leur budget sans que ça devienne trop compliqué. On va voir ce qui est vraiment applicable, comment ça peut marcher au quotidien. Bon, on creuse un peu. Alors Nestor nous donne 10 étapes. Ça commence par bien regarder où va l'argent et ça finit par se fixer des objectifs précis. On va décortiquer un peu tout ça.
Oui, et c'est une approche intéressante parce qu'elle mise sur la simplicité. Souvent, on s'imagine que gérer son argent, c'est hyper complexe, réservé aux pros. Mais en fait, comme le montre l'article, ça commence souvent par des gestes simples, des fondamentaux, quoi. La première astuce, le suivi des dépenses, c'est la base de tout, le point de départ obligé.
Effectivement, il insiste beaucoup là-dessus. Astuce numéro 1, devenir un peu un détective de ses dépenses. Il dit de noter tout, absolument tout ce qui sort, même les petites sommes, pendant un mois. Et après, de classer alimentation, logement, transport, loisirs, enfin, les catégories habituelles. Ça peut paraître un peu fastidieux au début, non ?
Ça peut, oui. Mais c'est vraiment un investissement de départ. Sans cette visibilité, on navigue à vue. Et on a souvent des surprises d'ailleurs. Hein. On découvre où l'argent part réellement. Et ça rend l'étape suivante, l'astuce 3, beaucoup plus logique. Distinguer les dépenses fixes des dépenses variables.
Ah oui, les fixes et les variables.
Voilà. Les fixes, c'est le loyer, les crédits, les assurances. Bon, là-dessus, on a peu de marge de manœuvre immédiate. Et puis, il y a les variables, les courses, les sorties, le shopping. Et c'est là, en fait, qu'on peut agir. Comprendre cette différence est fondamental pour savoir où on peut potentiellement réduire.
D'accord. Donc, une fois qu'on a cette carte de nos dépenses, l'article passe au budget. C'est l'astuce 3. Il évoque deux méthodes connues, la règle du 50-30-20. Où, en gros, 50% du revenu va aux besoins, 30% aux envies et 20% à l'épargne ou au remboursement de dettes. Et l'autre méthode, c'est le budget base zéro. Là, l'idée, c'est d'assigner chaque euro qui rentre à une catégorie, jusqu'à arriver à zéro. L'article dit que ce sont des guides souples. Ça veut dire qu'il n'y a pas une méthode parfaite pour tout le monde.
Exactement. Ce sont des cadres, pas des dogmes rigides. Le 50-30-20, il est souvent plus simple pour commencer, il laisse de la flexibilité avec les envies. Le budget base zéro, lui, il demande plus de suivi, c'est sûr. Mais il donne un contrôle très précis. Il oblige à décider où va chaque euro. Le choix, ça dépend de chacun, de sa personnalité, du temps qu'on veut y consacrer. Mais les deux visent la même chose, donner une direction à son argent plutôt que de le laisser filer.
Et pour aider avec ce suivi, l'astuce 9 recommande les applications de budget. L'article donne des exemples comme Mint, YNAB. Est-ce que ça change vraiment la donne, ces outils ?
Ces outils peuvent être une aide précieuse, oui. Ils automatisent une partie du boulot, donnent des graphiques clairs, peuvent envoyer des rappels. Ça simplifie le côté un peu rébarbatif du suivi. Mais attention, il ne faut pas croire que l'appli va faire le travail toute seule. L'outil, qu'il soit digital ou un simple carnet, il ne vaut que si on l'utilise régulièrement. C'est la discipline qui compte avant tout. Vérifier, ajuster, rester impliqué. Une super application qu'on n'ouvre jamais, elle sert à rien. Un suivi manuel régulier sera toujours plus efficace.
D'accord, je vois. Donc, toute première phase, comprendre et planifier. Ensuite, l'article aborde comment maîtriser concrètement les dépenses. Il y a des astuces qui jouent un peu sur la psychologie, j'ai l'impression, comme l'astuce 4, les enveloppes budgétaires ou les comptes séparés. Et l'astuce 8, qui dit de payer plus souvent en liquide. Payer en cash, c'est un peu old school, non ?
C'est vrai, ça peut paraître un peu à contre-courant avec le sans-contact partout. Mais c'est justement ça qui est intéressant psychologiquement. Payer par carte, c'est tellement fluide, rapide, presque abstrait. On sent moins l'argent partir. Alors que sortir des billets d'une enveloppe loisir, par exemple, et voir le tas diminuer physiquement, ça crée ce qu'on appelle une friction. La dépense est plus réelle, plus consciente.
Une friction positive, en quelque sorte.
Exactement. On réfléchit peut-être un peu plus avant de dépenser. Que ce soit avec des vraies enveloppes ou des comptes dédiés avec un solde visible, le but est le même, rendre la limite concrète. Ça aide à freiner les dépenses un peu impulsives. C'est une petite aide qu'on se donne à soi-même.
Je vois l'idée. Rendre la dépense moins abstraite. Et à côté de ça, il y a des actions plus directes pour couper dans les dépenses. L'astuce 6, faire le tri dans ses abonnements et réduire les dépenses non essentielles. Ça semble logique.
C'est logique, mais on oublie souvent de le faire. On accumule vite les petits abonnements faciles, le streaming, les applis, la salle de sport où on ne met plus les pieds. Pris séparément, ça semble peu, mais sur un an, ça chiffre vite, parfois en centaines d'euros. Faire le point régulièrement, l'article dit tous les mois, mais bon, tous les trimestres, c'est déjà bien, et se poser la question, est-ce que j'utilise vraiment ce truc? Est-ce que ça vaut le coup? C'est crucial.
C'est de l'argent facile à récupérer, en somme.
Exactement. Sans forcément se priver énormément. Pareil pour certaines habitudes, comme le café à emporter tous les matins ou le déjeuner dehors tous les midis.
Justement, en parlant de déjeuner, l'astuce 7 insiste sur le fait de préparer ses repas à la maison, présenté comme un gros levier d'économie.
Et c'en est un, carrément. L'alimentation, c'est souvent un des plus gros postes de dépenses variables. Manger dehors, commander, acheter des plats tout faits, ça coûte bien plus cher que de cuisiner soi-même avec des produits de base. Planifier un peu ses menus, faire une liste de courses précise, ça aide non seulement à maîtriser le budget, mais aussi à moins gaspiller. C'est un changement qui demande un peu d'organisation, c'est vrai, mais les économies peuvent être très rapides et significatives. On parle de dizaines, voire centaines d'euros par mois, selon d'où on part.
D'accord. Donc, on a vu comprendre ses finances, freiner les dépenses, réduire le superflu. La dernière partie de l'article, elle, se concentre sur comment construire l'épargne activement. Et là, il y a l'astuce 5 qui a l'air redoutable. Automatiser son épargne. Faire un virement automatique vers un compte épargne dès que le salaire tombe.
Ah oui, ça c'est probablement une des astuces les plus efficaces, surtout pour ceux qui ont du mal à mettre de côté. C'est le fameux principe du « payez-vous en premier ». Au lieu d'essayer d'épargner ce qui reste à la fin du mois, s'il reste quelque chose.
Oui, c'est souvent ça le problème.
Voilà. Là, on traite l'épargne comme une dépense obligatoire, une priorité. Le virement automatique, le jour de la paix, ça rend le truc quasi indolore. L'argent est mis de côté avant même qu'on ait le temps de le voir sur le compte courant et d'être tenté de le dépenser pour autre chose. Ça transforme l'épargne en habitude. Plus besoin d'y penser chaque mois. C'est très, très puissant pour construire une épargne régulière, même si on commence petit.
Et pour que cette épargne ait du sens, pour garder la motivation, l'article finit avec l'astuce 10, se fixer des objectifs SMART. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. L'exemple donné, c'est économiser 500 euros en 3 mois pour un fonds d'urgence. Pourquoi cette structure SMART est si importante?
Parce qu'elle transforme un souhait vague en un plan d'action concret. Dire « je veux épargner », bon, c'est bien, mais ça ne mène pas loin. Par contre, dire « je veux économiser 500 euros », ça c'est spécifique et mesurable, en mettant de côté 167 euros par mois pendant 3 mois, là on a atteignable, réaliste, temporel, ça donne une feuille de route, c'est clair.
Ça rend le but moins impressionnant, peut-être.
Point à la question, pourquoi on fait cet effort? Que ce soit pour la sécurité d'un fonds d'urgence, le plaisir d'un voyage, un projet d'achat, préparer l'avenir. Avoir un objectif clair, c'est le moteur. C'est ce qui donne la force de dire non à une dépense superflue et de rester concentré sur son but.
Bien, on a fait un bon tour de ces 10 astuces de Nestor. Si on essaie de résumer un peu, on voit bien une logique. D'abord, comprendre où on en est, suivre, classer, faire un budget, ensuite agir sur les dépenses, freiner l'impulsivité, réduire le superflu, optimiser les gros postes comme la nourriture, et enfin construire activement l'épargne, l'automatiser et lui donner un but précis. L'article conclut en disant que c'est pas sorcier, c'est une question d'organisation, de régularité. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement?
Ce qu'on retient, je pense, c'est que reprendre en main ses finances, c'est accessible. Ces astuces le montrent bien. Pas besoin d'être un expert au départ. Ce sont des actions simples, mais c'est leur application régulière, cohérente, qui fait la différence. Il s'agit moins de se priver de tout que de faire des choix plus conscients, plus alignés avec ce qui est important pour soi. C'est un cheminement. On commence par une ou deux astuces, on voit que ça marche, ça donne confiance, et petit à petit, on construit une relation plus saine, plus maîtrisée avec l'argent. La discipline, ça se construit avec la pratique.
C'est encourageant de le voir comme ça, comme un processus graduel, pas une révolution à faire du jour au lendemain.
Absolument. Le but, c'est pas la perfection immédiate, c'est l'amélioration progressive. Et même des petits changements, s'ils sont tenus dans la durée, peuvent avoir un impact énorme. C'est l'effet cumulé des bonnes habitudes, quoi. Et peut-être, pour aller un peu plus loin que ces conseils très pratiques, on pourrait se poser une question. Si on devait choisir une seule petite habitude financière, parmi celle-ci ou une autre, mais vraiment une toute petite, à mettre en place dès maintenant et à tenir, laquelle aurait le plus de potentiel pour changer en profondeur notre rapport à l'argent sur le long terme? Pas forcément celle qui fait économiser le plus tout de suite, hein, mais celle qui enclenche le changement de mentalité le plus durable. C'est une réflexion intéressante à avoir, je trouve.
Excellente question pour conclure cette exploration. Merci beaucoup pour ces éclairages très concrets. Et merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle discussion.